Bienvenue dans Portrait de Paris 8. Aujourd'hui, nous rencontrons Anne Poli, ex-étudiante du Master de création littéraire de Paris 8, dont le roman Avant que j'oublie vient d'être récompensé par le prix Inter 2020. Ce livre sensible et poétique dépeint les complexités de l'amour filial et l'expérience du deuil, avec beaucoup d'humour et tout en nuances. Anne nous raconte sa formation à Paris 8, nous parle de la jeunesse de son roman, de ses sources d'inspiration et du pouvoir réparateur de la littérature.
Moi, j'avais un rêve d'enfant qui était écrire, et pour tout un tas de raisons névrotiques en particulier, je ne me suis pas autorisée ça. Par contre, ce que je me suis autorisée, c'est d'être correctrice dans la presse. Donc voilà que je corrigeais les textes des autres, donc j'étais quand même dans le texte, mais pas dans les miens. Donc au bout d'un moment, comme ce désir d'écrire était persistant et que je me retrouvais à corriger les textes des autres, la tension entre les deux commençait à me faire souffrir. Et puis j'ai décidé que j'allais accéder à ce rêve, me donner les moyens en tout cas d'y parvenir. Donc je suis d'abord allée chez une psychanalyste pour lui dire je comprends pas très bien pourquoi ça marche pas, mais à chaque fois que le train passe, j'arrive pas à monter dedans. Ça a débloqué des choses en moi sans que je sache vraiment quoi. Et puis au même moment a ouvert le master de création littéraire à Paris 8. Donc je savais que ce truc avait ouvert, j'en avais entendu parler et j'ai postulé. Parce que je me suis dit que pour en avoir le cœur net de cette histoire d'écriture, il allait falloir que j'aille vers un endroit où on pourrait valider cette intuition que j'avais, que je savais le faire ou à peu près. Ce master, d'autre part, avait une espèce d'aura déjà, puis il était enseignant des auteurs également. On pense à Olivier Rosenthal, on pense à Christine Montalbetti, on pense à Sylvain Patieux. J'ai tenté ma chance et j'ai été reçue dans ce master. Pour rentrer dans ce master, il fallait présenter un projet et j'en avais pas vraiment, donc je me suis mis devant ma feuille et j'ai dit mais qu'est-ce que j'ai à raconter ? Et je me suis dit en fait le plus dingue qui soit arrivé récemment, c'est quand même la mort. Voilà, et donc je me suis mise à parler de ça. Et au départ, ça devait être qu'un projet pour rentrer. Et puis finalement, ça s'est prolongé. Quelque chose qui est très bien fait dans ce master, qui est très bien pensé, c'est qu'on on travaille en groupe et on est obligé, pour avancer dans son propre chemin d'écriture et dans son texte, de présenter régulièrement les avancées de son travail à ses camarades. Donc chacun a pour telle date son texte à présenter ou l'avancement de son texte et les autres le lisent et font des retours pendant quelques heures. Souvent, le problème de la page blanche, c'est qu'on n'a pas d'adresse. On ne sait pas à qui on raconte quelque chose. Tandis que là, ça débloque tout de suite les choses, puisqu'on raconte forcément un peu à quelqu'un quelque chose. C'est-à-dire qu'on a la tête du camarade en face, et on dit « Ouh là là, ça ne va pas le faire marrer » ou « ma chinette va trouver que c'est pas bien » ou voilà. Tout d'un coup, il y a une espèce de public qui se crée, et ça permet aussi d'avoir les moyens de défendre son texte. C'est-à-dire « j'ai écrit telle phrase, j'ai écrit tel paragraphe, j'avais des bonnes raisons de le faire ». Et souvent, ce que les autres en disent te permet de savoir si quelque chose est justifié ou pas. Un truc qui sert à rien, si les autres te disent ça sert à rien, et ben en fait ça sert à rien. Voilà. Donc ça c'est hyper important. Ces rencontres ponctuelles autour du texte de chacun, ça apporte aussi beaucoup d'humilité parce que les autres dévoilent leurs imaginaires. Et c'est très sensible ça, avoir accès à l'imaginaire des autres. Il y avait aussi des ateliers d'écriture qui sont très bien parce qu'ils sont très simples souvent, c'est des propositions d'écriture qui sont assez simples. Je me rappelle notamment d'un thème d'atelier d'écriture proposé par Christine Montalbetti qui m'avait beaucoup plu. C'était d'écrire un épisode météorologique On fait ça pendant une heure. Et puis après, elle dit, bon, bah alors maintenant, vous enlevez tous les adjectifs. Voilà. C'est bête hein, comme exercice, mais n'empêche que c'est hyper formateur. C'est-à-dire que tout de suite, tu prends conscience de l'importance de l'adjectif ou de ne pas en mettre, justement. Enfin, voilà, des choses comme ça. Globalement, les ateliers d'écriture proposés dans le cursus de ce master sont des ouvroirs d'écriture. C'est-à-dire que, sous des prétextes assez simples, on prend la mesure de sa propre plume. Puis, il y en avait un autre, par exemple, qui était tout aussi simple, qui était « Décrivez votre trajet pour arriver jusqu'ici ». Tu vois, c'est rien comme sujet, mais pourtant, ça laisse un espace considérable. Et en fait, tout était comme ça dans ce master, c'est que ça te laissait un espace considérable. D'autre part, il y avait des cours qui nous emmenaient vers les thématiques du contemporain. Qu'est-ce que la publication ? Qu'est-ce que la publication aujourd'hui ? Voilà, qui nous ouvraient des champs thématiques, en quelque sorte, sur la littérature contemporaine. Ce qui était vachement bien aussi, c'était la rencontre, parce qu'il y a évidemment un aspect professionnel quand même dans ce master, où il y a des rencontres qui sont organisées avec des gens du monde de l'édition. Donc soit des auteurs, soit des éditeurs. Parfois il y avait aussi une personne de la SGDL qui est la Société des gens de lettres. Enfin voilà, ça permet de rencontrer les acteurs un peu de ce monde-là. Contrairement à ce que les gens un peu méfiants en pensent, c'est pas du tout une machine à fabriquer des écrivains. Parce qu'il y a souvent cette espèce de prudence ou de méfiance vis-à-vis de ce master, dont on imagine qu'il est fabriqué comme les écoles de creative writing aux États-Unis ou dans les pays anglo-saxons. Or, c'est beaucoup plus subtil que ça. On n'apprend pas à écrire dans ce master. On est guidé dans ses intuitions, plus, et dans sa langue, peut-être. Et puis, ouvert à des champs dont on soupçonnait peut-être pas l'existence ou à des auteurs... moi, j'avais, par exemple, j'avais jamais entendu parler de Sebald. Voilà. C'est Lionel Ruffel qui m'a ouvert les yeux sur cet auteur. En France, l'écriture est toujours considérée un peu comme un hobby. C'est-à-dire, on écrit comme on ferait de l'aquarelle ou bien du macramé. Tandis que là, tout d'un coup, ça donne une vraie crédibilité. On sort de l'amateurisme. Parce qu'en France, les auteurs, en tout cas tant qu'ils ne sont pas publiés, sont dans quelque chose qui relève de... On les soupçonne d'être des amateurs. Or là, tout d'un coup, ça devient sérieux. C'est-à-dire que pendant 2 ans, on écrit très sérieusement, comme des écrivains, et on est potentiellement des écrivains en devenir. Donc ça change complètement le rapport à ça. Ça change aussi le rapport à la vision très romantique du génie français qui doit écrire dans sa mansarde froide, à la lueur de la bougie, avec la voix de Dieu qui parle directement, ou la muse de l'inspiration, enfin, tous ces clichés terribles dont on a eu du mal à se débarrasser en France. Là, ça met complètement à mal ces clichés, quoi. Ça a un effet désintimidant également, puisque divers professeurs et par le choix souvent des profs, on réalise que l'écriture n'est pas cette chose patrimoniale et intimidante dont on nous parle toute la journée. Au contraire, elle peut être ludique et qu'on peut écrire surtout et rire beaucoup aussi en écrivant. Ça, c'est très important pour moi, de découvrir que la littérature aussi, c'est un jeu. C'est un jeu de langue, c'est un jeu avec soi, c'est un jeu avec son lecteur. Et qu'une fois qu'on a compris ça, c'est beaucoup moins compliqué d'écrire. Donc, outre l'adresse que ça permet, écrire à quelqu'un ou pour un lecteur potentiel, il y a aussi s'amuser de ce qu'on fait. Et pour moi, ça, c'est vachement important, pouvoir le jeu qu'il y a autour de tout ça. En termes d'inspiration, qu'est-ce qui m'a beaucoup marqué dans ma vie? La lecture d'Annie Ernaux, par exemple. Avant de lire Annie Ernaux, je ne savais pas que le milieu social pouvait être un... Enfin, je veux dire, oui, bien sûr, Balzac l'a fait, tout ça, mais que le milieu social pouvait être un objet littéraire qui pouvait être raconté de cette façon aussi. Alors, c'est un peu impensif de dire qu'on a aimé Annie Ernaux, mais enfin, quand même, j'ai beaucoup lu John Fante, des trucs comme ça, beaucoup de littérature américaine, Harrison, par exemple, les grands espaces américains, le type qui part en bagnole, cuver son whisky et pêcher, ça m'a beaucoup, beaucoup marqué. Qu'est-ce que j'ai aimé encore? J'ai lu beaucoup de littérature gay. Alors bizarrement gay masculine, puisque lesbienne n'était pas très représentée, en tout cas pas beaucoup publiée en France. Donc j'ai beaucoup lu Bruce Benderson par exemple, Denise Cooper, celui qui a écrit les textes des spectacles de Gisèle Vienne. C'est toujours très difficile de dire ce qu'on a dans sa bibliothèque. C'est un exercice... Dorothy Allison aussi, que j'ai découvert tôt. Là, il y a la réédition de son livre qui s'appelle Peau. C'est ressorti, je crois, chez Cambourakis. Et c'est une écrivaine queer qui parle notamment du contexte, enfin, qui parle de toutes ces choses que les Américains savent faire, c'est-à-dire parler de l'ordinaire, parler du quotidien, parler de... En parlant de quotidien, d'ailleurs, j'ai beaucoup lu aussi Raymond Carver. J'ai beaucoup aimé ses poèmes. Je me souviens d'une nouvelle notamment, peut-être que c'est marrant parce que j'y pense souvent, cet art du détail. J'avais lu une nouvelle où en fait c'est un couple qui se dispute. Je sais pas, elle est en train de repasser et puis lui il boit son café à table. Puis il y a une nappe avec des petites calèches. Et puis tout d'un coup elle lui dit, il y a 5 ans en fait cette histoire, en fait tu m'as trompé il y a 5 ans. Et lui, il pense que... C'est fini, 5 ans, c'est pas si grave. Et finalement, il finit par avouer. Et en fait, le couple se délite complètement à ce moment-là. Et pendant tout ce temps-là, il regarde les petites calèches sur la nappe. Voilà, donc le goût du détail, comme ça. J'étais très émue, plus jeune, par Francis Ponge et le parti pris des choses, enfin, son parti pris des choses. J'étais également très émue par Henri Michaud, sa manière d'écrire le presque rien. Et d'en tirer beaucoup d'émotions.
Nous proposons à Anne de répondre à un portrait chinois, un jeu littéraire visant à déceler des traits de personnalité en s'identifiant à des objets ou des concepts. Nous lui posons 3 questions. Si tu étais un livre, si tu étais un son, et si tu étais Paris 8.
Si j'étais un livre, je serais le livre de Janet Winterson qui s'appelle « Pourquoi être heureux quand on peut être normal ?» Janet Winterson, c'est donc une autrice britannique qui a, dans ce livre en tout cas, est revenue sur son enfance un peu malheureuse. C'est une enfant qui a été adoptée par une tante ou une marraine, on ne comprend pas très bien, mais qui était complètement bigote. Et qui, au fond, qui était bigote, qui écrivait des psaumes sur les murs, qui lui disait tout le temps « ne me demande pas pour qui sonne le glas », enfin qui lui sortait des passages entiers de la Bible par cœur, qui l'enfermait un peu dehors des fois aussi. Et en fait, ce livre, c'est une réhabilitation d'un parent un peu défaillant. Et dans ce livre, elle décrit à quel point elle a aimé cette personne quand même, malgré tout, malgré les bizarreries de cette femme. C'est aussi un livre très drôle et c'est aussi un livre qui dit comment, malgré cette enfance malheureuse, elle a découvert l'amour, puis la littérature. Enfin, ça parle beaucoup des pouvoirs de réparation de la littérature. Si j'étais un son, je serais le chant des martinets le soir d'été, les soirs d'été quand on entend les hirondelles qui chassent là. Ça, pour moi, c'est synonyme d'apaisement. Sinon, je serais une chanson, je ne sais pas trop laquelle parce que j'en ai des milliers, des chansons, mais je dirais
Last Dance de Donna Summer, par exemple. Pourquoi ? Parce que c'est la chanson la plus joyeuse au monde, si on l'écoute bien. Et en plus, il y a une extended version qui dure 12 minutes. Je la conseille à tous. Les jours où on n'est pas bien, on écoute ça et ça va beaucoup mieux. C'est une chanson qui parle aussi de l'amitié, de l'importance de... ou de l'amour d'ailleurs, et de l'importance des autres dans le bonheur, l'importance du collectif et de l'entraide. Si j'étais Paris 8, pour moi ça évoque aussi une forme de bouillonnement, de chaos, et en même temps c'est aussi un espèce de monde post quelque chose. Je ne sais pas de quel poste il s'agit, mais en tout cas, c'est un endroit qui a eu des espèces d'heures de gloire, de révolutionnaire, et qui continue finalement d'être dans une forme de révolution, d'être dans une forme d'avant-garde aussi, loin de tout ce qui enferme la pensée. Et alors évidemment, c'est une université, donc il y a des trucs qui se jouent en réel, c'est-à-dire des conflits qui se jouent entre générations, des conflits qui se jouent entre radical et moins radical, entre jeunes et boomers, etc. Mais ça sert à ça l'université aussi. Ça sert à ce que les savoirs se mélangent et qu'on puisse avancer ensemble dans la pensée.
Nous rencontrions aujourd'hui Anne Poli, dont le roman « Avant que j'oublie », prix Inter 2020, est disponible aux éditions Verdier. Cette émission est réalisée par le service communication de Paris 8.